Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs du congrès de l'invitation à venir vous parler donc aujourd'hui des conséquences neurobiologiques à l'âge adulte des maltraitances dans l'enfance. Alors, comme vous le savez, les abus sexuels et physiques dans l'enfance ont été associés dans de nombreuses études à de nombreux problèmes à l'âge adulte. C'est vrai, par exemple, des problèmes psychiatriques, j'en ai listé quelques-uns, anxiété, troubles conversifs, troubles paniques, abus de substances, suicide et tentatives de suicide. On sait par exemple que l'abus sexuel dans l'enfance est associé à une tentative, début de tentative de suicide, un premier geste suicidaire plus précoce, et une tendance à faire plus de gestes que ceux qui n'ont pas été abusés. La dépression, c'est pareil, je vais y revenir, et la dépression, lorsqu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance, est associée à un âge de début plus précoce et une tendance à la chronicisation du trouble. Trouble de l'adaptation, état de stress post-traumatique, dissociation, compulsion alimentaire, et puis toute une série de manifestations physiques aussi, douleurs pelviennes, rétention urinaire chronique, colon irritable, et enfin, toute une série de maladaptations, d'inadaptations dans la vie de tous les jours. Par exemple, problèmes conjugaux, divorce, problèmes pour être une mère affectueuse, des troubles sexuels en couple, plus souvent de grossesse à l'adolescence. Et puis, vous le savez, on vient d'en parler un petit peu, ce sont des gens qui sont plus à risque de commettre des abus sexuels sur leurs propres enfants et également d'être eux-mêmes victimes de viols. Ce que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui ensemble, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette flèche, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'abus sexuels et physiques dans l'enfance à toute une série de manifestations possibles à l'âge adulte. Philippe, dans un instant, juste après moi, vous dira comment on fait pour ne pas passer finalement de l'un à l'autre, qu'est-ce qui peut modérer cette relation. Nous, on va se mettre dans le cas où la personne victime d'abus sexuels dans l'enfance va manifester un certain nombre de troubles, ou est à risque en fait de manifester un certain nombre de troubles. Parce que je voudrais qu'on voit ensemble surtout le concept de vulnérabilité induite par les maltraitances dans l'enfance. Donc la vulnérabilité, c'est le fait que, non pas que la personne est malade, mais qu'elle est à risque de l'être. Évidemment, le pendant de la vulnérabilité, le pendant positif, c'est la résilience, ça marche ensemble, d'où la balance. Et cette vulnérabilité ou cette résilience, c'est le fruit d'un développement extrêmement complexe qu'on commence à peine à comprendre chez l'être humain et qui découle d'une interaction extrêmement complexe, Philippe y reviendra, entre des gènes et un environnement précoce. Donc une fois qu'on a acquis la vulnérabilité, encore une fois, on n'est pas malade, mais on est à risque de l'être, vous voyez, on est à risque de développer un certain nombre de pathologies mentales, de difficultés d'adaptation, sous l'effet de facteurs de stress, en sachant qu'il y a des facteurs de protection, par exemple le soutien social, qui vont s'opposer à l'expression de la pathologie mentale en cas de vulnérabilité. Donc la question qu'on va aborder ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe quand cet environnement précoce est délétère, lorsqu'il y a un traumatisme dans l'enfance, quelles sont les voies finalement qui font passer de cet environnement précoce à cette vulnérabilité. Alors on va aborder les aspects ensemble neurobiologiques. Alors ça ne se substitue pas aux aspects psychologiques, hein, c'est juste le soubassement neurobiologique de ces manifestations psychologiques. Et ensemble, on va voir trois aspects neurobiologiques, à savoir l'aspect biochimie, rapidement sur la neuroimagerie, et puis les aspects cognitifs, encore une fois, de la vulnérabilité induite par la maltraitance dans l'enfance. Alors, petit rappel neuroanatomique, pour commencer, l'axe où le système biochimique a été le plus étudié en rapport avec les conséquences des traumatismes dans l'enfance, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, en réponse au stress, vous voyez marqué en rouge, et sous l'effet donc, de l'activité de l'amygdale et du système noradrénergique, eh bien, une structure du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui se trouve à la base du cerveau, va sécréter une substance qu'on appelle le CRF, ou CRH. Cette hormone va aller agir au niveau de l'hypophyse antérieure et favoriser la sécrétion d'une autre hormone qui s'appelle l'ACTH. Et cette ACTH va être libérée dans le sang et va aller au niveau de la surrénale, donc c'est ce qui s'appelle adrenal cortex ici, donc de la cortico-surrénale, favoriser la sécrétion du cortisol. Donc vous avez entendu parler, hein, c'est l'hormone du stress. Et ce cortisol est libéré dans le sang et va agir à plein d'endroits. Ce qui est important, et on y reviendra, ce que je vous demande de retenir, c'est que ce cortisol, il va avoir deux effets également. Le premier, c'est d'agir en feedback sur les structures qui ont favorisé sa libération, c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Un feedback qui est négatif, ça permet d'éviter que le système s'emballe. D'accord ? C'est un système qui dit hop, stop, on ralentit un petit peu là. Ça évite que. On va voir quand ça ne marche pas, c'est un problème. La deuxième chose, c'est que ce cortisol, il va aussi aller agir au niveau d'autres structures, comme le cortex préfrontal et l'hippocampe, qui sont des structures de frein de ce système. Et on va voir que quand il y a une sécrétion trop importante de cortisol, et bien ça peut abîmer ces structures qui sont des freins. Bon, on va revenir sur tout ça. Alors, on n'a pas beaucoup de recul sur la neurobiologie des conséquences infantiles, des conséquences à l'âge adulte, des maltraitances dans l'enfance. Tout commence finalement au tout début des années 2000, pas très longtemps, avec ce papier qui a été publié dans JAMA. Il y avait des données chez l'animal, mais c'est tout à fait intéressant, mais beaucoup plus intéressant d'étudier évidemment les conséquences de ce genre de traumatisme chez l'être humain. Et donc ce papier dans JAMA de Christine Heim, de l'équipe de Charles Nemeroff, qui ont étudié quatre groupes de sujets. Alors vous voyez, il y a les sujets contrôle, qui sont les sujets qui n'ont aucune histoire de dépression. Il y a un pointeur, c'est ceci ? Voilà. Des sujets contrôle, vous voyez 12 sujets sains, sans histoire donc d'abus dans l'enfance et de dépression. Et puis les sujets, alors ELS, c'est abus sexuels et physiques dans l'enfance, et MDD, c'est troubles dépressifs majeurs. Donc 13 sujets qui ont une histoire à la fois d'abus dans l'enfance et de dépression, 14 sujets qui ont une histoire d'abus dans l'enfance sans dépression, et 10 sujets qui ont une histoire de dépression sans abus dans l'enfance. Et puis on leur fait passer un test de stress. Alors le test de stress, je suis en train de le passer, c'est de parler en public. Et je vous assure que c'est un test qui marche bien pour le stress. Et on a mesuré plusieurs choses. On a mesuré ici l'ACTH. Rappelez-vous, c'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse antérieure. On a mesuré aussi le cortisol, d'accord ? Et on a mesuré ici les battements cardiaques, la réponse autonome. Qu'est-ce qu'on montre ? Résultat tout à fait passionnant. Qu'est-ce qu'on montre ? On montre que dans les deux groupes qui ont été abusés, c'est-à-dire ceux qui sont déprimés et pas déprimés, mais qui ont une histoire d'abus dans l'enfance, on montre une réponse forte, très significativement différente des deux autres groupes, de la CTH. C'est un peu vrai pour le cortisol, mais c'est uniquement chez les sujets qui sont déprimés. Ce résultat est tout à fait intéressant pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on montre que chez les sujets abusés, eh bien, il existe une réponse forte de l'antéhypophyse, d'accord, de l'hypophyse antérieure. Que les sujets et développer une maladie, à savoir la dépression, ou pas. C'est-à-dire même quand ils ne sont pas malades, ils ont une réponse qui est exagérée de la CTH. Deuxième résultat tout à fait intéressant donné par cette courbe, c'est que les sujets qui ont développé une dépression, mais qui n'ont pas d'histoire d'abus dans l'enfance, eux, le système fonctionne tout à fait comme des sujets sains. Et donc on voit se dessiner, on va y revenir, deux types de dépression. Aujourd'hui, on soigne un type de dépression. En fait, il y a deux types de dépression ici. Les dépressions avec histoire d'abus dans l'enfance et les dépressions sans histoire d'abus dans l'enfance, sur le plan neurobiologique, ce ne sont pas les mêmes. J'y reviens dans un instant. Même groupe qui publie l'année suivante dans l'American Journal, un autre type de test, alors ce sont les mêmes patients, ou les mêmes groupes. Cette fois-ci, ce n'est pas un test de stress, mais on stimule directement par les hormones, donc ou par le CRF ou par la CTH. Donc quand on stimule par le CRF, et qu'on mesure la CTH, vous voyez que les patientes, eux, ce sont que des femmes, qui ont une histoire d'abus dans l'enfance, ont là aussi une réponse très exagérée, d'accord, par rapport aux autres. Par contre, quand on mesure le cortisol est très abaissé, significativement abaissé par rapport aux autres, lorsqu'on stimule par la CTH. Donc il y a une réponse qui est très atténuée du cortisol. Là aussi, je vais y revenir dans un instant, on va résumer tout ça. Dernière étude, publiée cette fois-ci par un groupe hollandais. Ils ont stimulé des patienteux présentant un trouble bipolaire, un trouble borderline. Certaines de ces patientes ayant une histoire d'abus dans l'enfance et d'autres pas. Et ils montrent que chez les patientes borderline avec une histoire d'abus, ici, il y a également une réponse très forte de la CTH en réponse au CRF. Ça n'est pas vrai des patientes borderline sans histoire d'abus. D'accord ? Donc l'idée d'abord que toutes les patientes borderline ont été abusées, c'est faux. Et les patientes qui n'ont pas été abusées sont différentes des patients qui ont été abusés en termes neurobiologiques, encore une fois. Donc ce qu'on avait montré avec la dépression, on peut aussi le montrer dans une autre pathologie qui est la personnalité borderline. Donc on résume un petit peu tout ça. Le résultat central, il est là. Chez les personnes qui ont été victimes d'abus dans l'enfance, qui ne sont pas des patients, qui ne sont pas malades, on montre une réponse exagérée de la CTH en réponse au CRF. C'est-à-dire que l'antéhypophyse, l'hypophyse antérieure, est hypersensible. D'accord ? Elle est hypersensible au stress. Alors, les systèmes de régulation à ce stade fonctionnent bien. Le test à la dexaméthasone, c'est on injecte la dexaméthasone qui est du cortisol et ça freine le système par le niveau du, hein, par le biais du feedback dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce système fonctionne encore à ce stade. Probablement d'ailleurs qu'il fonctionne tellement bien que du coup le cortisol de base est faible. Vous allez me dire c'est bien peut-être d'avoir un cortisol de base faible, plus zèle. Alors c'est pas bien du tout en réalité. Parce que le cerveau, si vous voulez, est habitué à avoir un cortisol de base faible. Et donc chaque fois qu'il y a une sécrétion de cortisol en réponse au stress, et je viens de vous dire que la réponse au stress elle est exagérée hein, chez ces sujets, eh bien, finalement, l'effet de ce cortisol va être bien plus important que si le niveau de base est plus élevé. Il y a une sorte d'effet permissif. Et donc, ça va avoir des conséquences beaucoup plus dommageables. Alors, à ce stade, le patient n'est pas malade, il est vulnérable, et on voit que, alors même qu'il n'a pas développé de problèmes psychiatriques, il a des stigmates neurobiologiques, des maltraitances en enfance. D'accord ? Néanmoins, ces marques neurobiologiques sont des facteurs de risque notamment de dépression. Pourquoi ? Ce qu'on pense, hein, on est encore au tout début de cette exploration, c'est que ces patients qui répondent très fortement au stress, s'ils sont soumis à un environnement peu stressant, il ne va rien se passer. On est au stade de la vulnérabilité. D'accord ? Maintenant, s'ils sont soumis à un environnement stressant, ils vont relarguer beaucoup de cortisol. Ce cortisol, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller, à la longue, altérer un certain nombre de structures, je vous ai parlé tout à l'heure de l'hippocampe, on y reviendra, et du cortex préfrontal qui sont des freins. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un stress, la personne ronge son frein. Et finalement, le système finit par devenir de plus en plus actif, à s'emballer, à avoir besoin de moins de stress pour se mettre en marche, et à la longue, évidemment, ça va être extrêmement délétère. L'autre chose, c'est que ce glucose qui est sécrété, et qui agit comme un feedback. Quand il est sécrété en excès, le feedback finit par plus marcher. Donc là aussi, le deuxième frein lâche et finit par marcher tout seul. Par ailleurs, le CRF, on pense qu'il est produit en excès et que tout ça, ça conduit à quoi ? À la dépression. Donc vous avez un marqueur neurobiologique de vulnérabilité induit par un événement précoce. Ce marqueur de vulnérabilité peut très bien ne pas s'exprimer, mais dans des conditions de vie stressantes à l'âge adulte, eh bien, ça va aboutir à des tableaux, là je vous ai parlé de la dépression, mais des tableaux d'état de stress post-traumatique, de troubles conversifs, c'est une manifestation aiguë, émotionnelle, etc. La liste que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, quand on a la vulnérabilité, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Juste pour vous dire, donc, on n'a pas retrouvé ces anomalies chez les victimes d'abus à l'âge adulte. D'accord ? Donc les troubles neurobiologiques que je vous ai présentés, qui marquent la vulnérabilité, se sont développés, hein, parce que ces événements ont eu lieu de manière précoce. Si ces événements traumatiques arrivent à l'âge adulte, par exemple les femmes qui sont victimes de viol, eh bien on ne retrouve pas ces anomalies. D'accord ? À ce moment-là, le système est déjà en place. Par ailleurs, ces études ont un certain nombre de limites, notamment qu'elles sont rétrospectives, on étudie uniquement des femmes et qu'il y a des comorbidités à prendre. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Un début d'argument, toujours par l'équipe hollandaise dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Rinne, qui a publié en 2003 un effet de la fluvoxamine, donc c'est un antidépresseur sérotoninergique, c'est le floxifral, chez les patients de borderline dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Donc vous voyez qu'avant le traitement, les patients de borderline avec histoire d'abus ont une réponse, vous l'avez compris maintenant, qui est exagérée, une réponse de la CTH qui est exagérée. Si vous traitez ces patientes par antidépresseur pendant 6 semaines, eh bien vous voyez que la réponse à la CTH se normalise. La réponse à la CTH se normalise. Et ceci, indépendamment de l'effet sur la dépression ou sur un état de stress post-traumatique qu'on retrouve fréquemment chez ces patients. D'accord ? Et cet effet, on le constate déjà au bout de 6 semaines et est confirmé au bout de 12 semaines. Donc on peut agir sur cette vulnérabilité, on peut normaliser le système. Alors ici, c'est avec un traitement antidépresseur, je ne sais pas de données avec les psychothérapies, hein. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir d'effet aussi de certaines psychothérapies, mais on a peu de données pour le moment. Je vous ai parlé de l'hippocampe tout à l'heure. Trop de corticoïdes nuit à l'hippocampe, et bien on l'a mesuré. On a mesuré le volume de l'hippocampe à droite et à gauche, on en a deux. Chez les patientes saines, c'est des patients qui ont une histoire de dépression sans abus, et chez les patients déprimés avec histoire d'abus. On avait la notion que la dépression s'est associée à une réduction du volume de l'hippocampe. Ben maintenant, on sait que c'est plus compliqué que ça. Ça n'est vrai que chez les patients qui ont une histoire de dépression et d'abus. Vous voyez ici qu'il y a une différence significative. Les patients qui sont déprimés et qui n'ont pas d'histoire d'abus n'ont pas une diminution du volume de l'hippocampe significative par rapport à des sujets qui n'ont jamais eu aucune histoire ni d'abus ni de dépression. Donc c'est un autre argument pour penser qu'il y a au moins deux types de dépression. Il y a beaucoup plus, je pense. Mais il y a au moins deux types de dépression. Il y a les dépressions avec histoire d'abus dans l'enfance qui sont accompagnées d'anomalies de l'axe corticotrope, de l'hippocampe. L'hippocampe, vous savez que c'est impliqué dans la mémoire, dans l'apprentissage. Et puis il y a les dépressions sans histoire d'abus où là, manifestement, au moins le système corticotrope et l'hippocampe ne présentent pas d'anomalie. Alors là, on doit évidemment s'orienter plutôt vers la sérotonine, la noradrénaline, etc. Là aussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien, on a un début d'argument avec une étude publiée qui a utilisé la paroxétine, un autre antidépresseur sérotoninergique. Eh bien, quand on donne de la paroxétine à ces personnes, eh bien, on s'aperçoit que les tests mnésiques s'améliore et que le volume de l'hippocampe se normalise. D'accord ? Donc il n'y a rien qui est définitif. On peut avoir une action thérapeutique, ici encore par antidépresseur. Pas exclu que l'effet, je vais en parler dans un instant, des psychothérapies soient aussi efficaces, ça dépend lesquelles. Mais on peut faire quelque chose, on peut agir sur la vulnérabilité à la fois de l'axe corticotrope et de l'hippocampe. Alors voilà, cette étude qui a été publiée dans PNAS, encore une fois par le groupe de Charles Nemeroff, à regarder quel était l'effet d'un antidépresseur qui est la néphazodone. Alors on ne connaît pas ça en France. C'est un antidépresseur qui est un antagoniste des récepteurs 5-HT2 pour ceux qui sont intéressés par la pharmacologie, qui a aussi des effets inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Enfin, c'est un antidépresseur. Et on l'a comparé à une forme adaptée de thérapie cognitive. Ne me demandez pas les détails, je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais j'ai compris que c'était une thérapie cognitive. Et on a regardé, on a comparé l'effet de ces deux types de thérapie sur la dépression, mais pour une première fois finalement, en prenant en compte une histoire éventuelle d'abus dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve que, alors vous voyez en rouge, c'est les personnes qui ont été abusées dans l'enfance, et en vert, c'est les patients qui n'ont pas été abusés dans l'enfance. Dans les deux cas, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il s'agit de dépressions chroniques. Donc, c'est des dépressions qui sont plus difficiles à soigner. C'est au moins 2 ans de dépression, les gens n'ont jamais été bien, etc. On les traite par antidépresseurs. Vous voyez ? Voilà. Par antidépresseurs, ce qui est efficace, c'est en rouge, c'est quand c'est efficace sur les dépressions sans abus dans l'enfance, sur antidépresseurs. Et la psychothérapie, eh bien, c'est l'inverse. La psychothérapie est efficace sur la dépression mais sur la dépression avec histoire d'embûches dans l'enfance. C'est-à-dire finalement cette étude nous montre que pour soigner la dépression, il faut prendre en compte l'histoire d'abus dans l'enfance et que la technique qu'on va utiliser doit être différente. On ne doit pas traiter de la même manière une dépression avec ou sans histoire d'abus dans l'enfance. Tout à fait intéressant, il me semble, pour notre pratique quotidienne. Donc là, à gauche, vous aviez, vous voyez, plus c'est élevé, plus les gens s'améliorent. Et ici, vous avez le pourcentage de rémission, on trouve le même type de résultat. Pour finir, j'avais vraiment envie de vous en parler, de la prise de décision, j'en parle tout le temps. Vous savez qu'à Montpellier, on a une grosse étude sur les conduites suicidaires. On a étudié la génétique, la personnalité, l'histoire d'abus dans l'enfance, et puis la neuropsychologie, maintenant l'imagerie fonctionnelle, de la vulnérabilité suicidaire. Je vais vous présenter un résultat de neuropsychologie. On a utilisé un test qui s'appelle l'Iowa Gambling Test et qui mesure la prise de décision, les capacités à prendre des décisions. Alors c'est un test tout à fait intéressant et intelligent, test informatique. Vous avez 4 paquets de cartes et on dit au sujet, voilà, vous allez choisir des cartes. Quand vous choisissez des cartes, vous pouvez gagner et perdre de l'argent. Faites en sorte de gagner le plus d'argent possible. Alors ce que ne savent pas les sujets, c'est qu'ils vont choisir 100 cartes, après le test s'arrête, et puis ils ne savent pas. Alors on leur dit, attention, il y a des paquets à risque, hein, faites attention. Mais ils ne savent pas lesquels. Alors il y a 2 paquets qui sont désavantageux parce que quand on gagne de grosses sommes d'argent, c'est très attirant. Mais quand on en perd de plus grosses encore. Autrement dit, c'est très attirant à court terme, mais c'est très désavantageux à long terme. Et les paquets avantageux, donc vous l'avez compris, c'est l'inverse. On gagne de petites sommes d'argent, c'est pas très amusant. Sauf que quand on en perd 2 plus faibles encore, et donc ça finit par être avantageux à long terme. D'accord ? Alors c'est fait de telle manière que c'est difficile hein, de repérer ça au départ. Donc ça crée un sentiment d'incertitude. On a ces 4 paquets, on gagne, on perd. Puis des fois, sur les paquets qui sont dits avantageux, on perd comme ça. Et puis sur les paquets désavantageux, on gagne. Donc c'est pas très clair. Ce qu'il faut arriver à repérer, à apprendre finalement, et Damasio et Bechara qui ont développé ce test nous le disent, il faut apprendre. Finalement, c'est un apprentissage de feeling. Vous voyez, il faut apprendre à s'éloigner, grâce aux émotions, des paquets désavantageux. Et ça, c'est difficile de calculer. C'est difficile de faire le calcul que ces 2 paquets sont avantageux ou ces 2 paquets sont désavantageux. C'est au feeling. Donc, on a fait passer ce test à des patients qui ont une histoire de conduite suicidaire. On a montré qui avaient des anomalies de prise de décision en comparaison de patients qui n'avaient pas d'histoire de conduite suicidaire, oui, et par rapport à des témoins sains. Mais je voudrais vous montrer les résultats chez les suicidants avec ou sans histoire de maltraitance dans l'enfance. Mais vous voyez que les sujets qui n'ont pas d'abus sexuels, tous suicidants, ont des scores significativement meilleurs que les sujets qui ont une histoire d'abus sexuels. Autrement dit, l'abus sexuel semble être associé à l'âge adulte à de plus grandes difficultés à prendre des décisions avantageuses. Alors, attention, hein, chez les suicidants sans histoire d'abus sexuel, ça, c'est pas les scores normaux, c'est les scores quand même qui restent faibles. Donc, la vulnérabilité suicidaire ou les anomalies de prise de décision dans la vulnérabilité suicidaire ne sont pas dues qu'aux abus dans l'enfance. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, je ne vais pas en parler maintenant. Mais vous voyez que quand il y a des histoires d'abus dans l'enfance, et bien, ça rajoute un poids supplémentaire à ces anomalies de prise de décision. Comment on peut expliquer cela ? Rapidement, 2 types d'explications. Celui qui vient, ou celle qui vient à l'esprit en premier, c'est de dire que la personne qui a été abusée dans l'enfance, eh bien, il va y avoir toute une série de modifications biochimiques, on vient de parler du cortisol, c'est vrai aussi de la sérotonine, et bien à la longue, ça fait que le développement normal de la prise de décision, qui se fait tout au long de l'enfance et de l'adolescence, se fait pas correctement. Donc au final, ces gens ont une prise de décision qui est altérée. Donc modèle développemental, premier qui vient à l'esprit. Peut-être qu'il y a un modèle plus compliqué qui est celui de la co-transmission. Alors ça c'est plus compliqué à concevoir. C'est l'idée finalement, peut-être que les personnes qui transmettent l'abus sexuel, si on peut dire, transmettent aussi un certain nombre de capacités cognitives altérées, comme la prise de décision. On a un certain nombre d'arguments pour penser que la prise de décision, elle a tendance à se balader dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a des familles où les gens ont plutôt tendance à avoir une bonne prise de décision et des familles où plutôt tendance à avoir une mauvaise prise de décision. On sait que les suicidants ont plutôt une mauvaise prise de décision. Et on sait que les personnes qui sont suicidantes ont plus d'histoire familiale de conduite suicidaire. Donc on peut penser, effectivement, les familles de suicidants se baladent une prise de décision désavantageuse. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à la fois une transmission dans ces familles de la prise de décision désavantageuse, celle qui est associée au risque de conduite suicidaire, et d'abus sexuels? Et ça nous amène à nous poser la question, est-ce que les personnes qui perpétuent finalement qui sont responsables de ces abus sexuels n'ont pas aussi des anomalies de prise de décision qui sont quelque part un petit peu responsables de l'abus sexuel lui-même? L'enfant devenu adulte qui a aussi des anomalies de prise de décision, si ça augmente le risque de réaliser un abus sexuel sur ses enfants, et bien vous voyez, cette personne est à risque effectivement de reproduire ses abus sexuels sur ses propres enfants. Donc peut-être que c'est pas juste une histoire de développement, enfin peut-être que c'est les deux d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a aussi une histoire d'anomalie cognitive, d'anomalie émotionnelle qui se balade dans les familles et qui sont finalement responsables du fait que tout ça continue sans cesse si on ne fait pas quelque chose pour l'arrêter. Hein. Mais pour agir, pour cela, pour arrêter ça, il faut agir sur ces fonctions cognitives, sur cette régulation émotionnelle, etc. Qu'on commence à peine à connaître. Un dernier résultat, ces anomalies de prise de décision, on a montré qu'elles étaient significativement associées à plus de difficultés interpersonnelles dans la vie affective. Nos suicidants, ceux qui ont plus d'anomalies de prise de décision, mesurés par ce test que je vais vous présenter, eh bien, ont, au cours de l'année passée, eu plus de problèmes dans le domaine affectif, c'est-à-dire dans leur famille proche, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs parents, que des gens qui ont une anomalie, qui n'ont pas d'anomalie de prise de décision. D'accord ? Donc, ces fonctions cognitives dont je viens de vous parler, ce n'est pas juste pour montrer de beaux graphiques, je crois que c'est surtout que c'est un retentissement sur la vie de tous les jours. Ceux qui ont des anomalies de prise de décision, ils ont plus de problèmes, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque à long terme des abus dans l'enfance. Ça amène plus de problèmes de couple, ça amène plus de problèmes avec ses enfants. Donc pour résumer tout ça, je finirai par là. Les maltraitances dans l'enfance confèrent une vulnérabilité aux troubles affectifs qui est marquée, je vous dis, par une hypersensibilité des voies du stress. Probablement, il y a autre chose aussi, mais on n'en est qu'au tout début. Il est suggéré que les dépressions de l'adulte induites par les maltraitances dans l'enfance reposent sur une neurobiologie, des altérations morphologiques, des atteintes cognitives et une réponse au traitement qui sont différentes des dépressions qui ne sont pas induites par les maltraitances dans l'enfance. Et évidemment, ces résultats ouvrent des perspectives à la fois pour comprendre comment ça marche et puis pour savoir comment faire. Je pense qu'on fait mieux quand on sait comment ça marche. Je vous remercie.